Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce mardi 26 juillet. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au sommaire de cette émission, le journal, les sports avec la fin du Tour de France hommes et le début du Tour des femmes. Nous aurons aussi la rubrique politique de la semaine, comme chaque mardi. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce mardi 26 juillet, le nouveau Parlement fédéral s'est ouvert ce matin avec une cérémonie autochtone traditionnelle et un « Welcome to Country ». Le projet de loi sur le climat, parmi une série de lois que le gouvernement fédéral souhaite aborder au cours de cette première semaine des travaux parlementaires. Le nouveau Parlement fédéral s'est ouvert ce matin avec une cérémonie autochtone traditionnelle et un « Welcome to Country », le Premier ministre Anthony Albanese réaffirmant son engagement envers la déclaration d'Uluru dans son intégralité. Le Premier ministre dit espérer apporter plus d'unité à ce Parlement et a passé ce message aux parlementaires.
Don't miss the chance, because you're not here for that long, none of us will be. And when you're sitting on the porch, thinking about what you did, you can either have a source of pride or a source of regret. No middle path. No middle path. Make it a source of pride.
Les travaillistes espèrent légiférer sur l'objectif de réduction des émissions de 43% qu'ils ont présenté aux élections, mais pourraient faire face à la résistance de l'opposition. On écoute le ministre du Changement climatique, Chris Bowen.
People who aren't constructive, like the opposition, have made themselves irrelevant to the process. Now the Liberal Party, or at least the leader of the Liberal Party, perhaps not the entire Liberal Party, but the Liberal Party seems to not have received the memo from the Australian people on May 21. That it's time to end the climate wars.
Le sénateur indépendant David Pocock a déclaré qu'il chercherait à négocier sur les réglementations environnementales pour mesurer l'impact climatique des développements futurs.
On the 43% bill, we've been having some really good discussions with Minister Bowen and his office about issues that have been raised, speaking to experts here in the ACT and things that the community want.
La députée libérale Bridget Archer pourrait soutenir la législation sur le climat proposée par le gouvernement travailliste. Le gouvernement est en négociation avec les Verts et les crossbenchers pour obtenir des votes cruciaux au Sénat. Bridget Archer a déjà cette année voté avec les travaillistes sur des amendements visant à protéger les enfants trans dans le projet de loi sur la discrimination religieuse. La députée de Tasmanie n'a pas exclu de voter à nouveau avec le Labour.
I think, it's never your natural sort of starting point. I don't think anybody comes here and says, well, I want to be difficult or, to do that. And it's a difficult thing to do. I feel that I must always consider everything that I do here through the lens of the electorate of Bass first, the Liberal Party second, and myself third.
Un projet de loi sera présenté au Parlement, ce qui supprimerait l'obstacle dans les cities et dans le territoire du Nord de légiférer sur l'aide médicale à mourir quand un patient est atteint d'une maladie grave et incurable, alors que les États sont autorisés à adopter des lois sur l'euthanasie en vertu de la législation fédérale de 1997. Les deux territoires ont été interdits de voter ces lois. C'est le premier vote de conscience du nouveau gouvernement. Alicia Payne, députée de Canberra dans l'ACT, l'une des auteurs du projet de loi, a déclaré sur l'ABC qu'elle était reconnaissante que cette législation soit enfin entendue.
Yes, I'm very thankful to Prime Minister Albanese and our Labor leadership team in allowing this private members bill to be debated, particularly in the first fortnight of sitting. Amongst a very packed legislative agenda, because it's well past time that Canberrans and people in the Northern Territory have the same democratic rights as everyone else in Australia. So I'm glad that we don't have to wait any longer to have this important debate.
Le gouvernement fédéral prolonge l'engagement et les forces de défense aux soeurs des soins aux personnes âgées, alors que plus d'un tiers des établissements de soins aux personnes âgées du pays luttent contre les épidémies de coronavirus. Le ministre de la Défense, Richard Miles, a annoncé que jusqu'à 250 membres des forces de défense aideront dans les maisons de retraite pendant la troisième vague de COVID-19. Richard Miles déclare que les médecins de l'ADF seront déployés jusqu'à la fin du mois de septembre après une réunion entre les responsables fédéraux de la santé et de la défense.
It's increasing from 30 to 250, so it's a considerable increase in the numbers of Defence Force personnel involved in clinical and non-clinical care. It's not a situation that can be there permanently, but we are seeing a really significant outbreak in our aged care sector, and so it is an important step to be taking over the next couple of months.
Caroline Kennedy, la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Australie, a laissé entendre que d'autres annonces étaient sur le point d'être faites sur l'alliance de sécurité AUKUS. Caroline Kennedy a remis ses lettres de créance au gouverneur général à Canberra hier, lundi, et a organisé la première cérémonie d'accueil autochtone dans le pays à l'ambassade des États-Unis. S'adressant aux journalistes après la cérémonie, Madame Kennedy a déclaré qu'AUKUS aura de nombreux avantages pour toutes les parties concernées.
AUKUS is a really significant partnership between three of the closest allies. Well, there are many announcements that are going to be coming in the coming weeks, so I think that's best to let those unfold and then maybe we can talk about them as they do.
La Russie a confirmé qu'elle effectuera des contrôles d'armes sur les navires qui se rendent dans les ports ukrainiens pour collecter des céréales. Dans une allocution devant la Ligue arabe au Caire, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les inspections étaient nécessaires pour s'assurer qu'aucune arme n'était livrée au port.
In the open sea, Russia, Turkey, together with another participant which is to be determined to accompany the convoys to the straits, and if the ships are coming to pick additional grain from Ukrainian ports, on the way there the ships would be inspected to make sure that they don't bring any weapons, which would only be detrimental to the continued conflict.
La déclaration fait suite à la signature d'un accord pour rouvrir le passage des approvisionnements en céréales en provenance d'Ukraine qui ont été interrompus depuis le début de la guerre en raison d'un blocus par la flotte russe de la mer Noire. Le blocus a également accéléré la hausse des prix mondiaux des matières premières. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a condamné la Russie pour ses frappes de missiles sur les ports de la mer Noire après la signature des accords diplomatiques. Volodymyr Zelensky déclare que son pays a tout fait pour ce qu'il pouvait pour débloquer les couloirs pour les exportations des céréales.
Vous savez que nous occupons notre...
The next question is for the UN and Turkey, to what extent they can control the Russian Federation, which has shown that it can launch missile strikes even after agreements. This is, in principle, Russia's attitude towards its partners, the UN and Turkey.
Des milliers de policiers ont été déployés dans le centre de la capitale des Philippines, à Manille, avant le premier discours sur l'état de la nation de Ferdinand Marcos Jr. Environ 5000 manifestants sont descendus dans les rues pour manifester. Le chef des manifestants, Renato Reyes, déclare qu'ils veulent que le nouveau chef s'attaque à la flambée du coût de la vie dans le pays et à la justice pour les victimes des droits de l'homme, sous le père de Marcos Jr., le défunt dictateur qui a été évincé du pouvoir lors d'un soulèvement pro-démocratie en 1986.
We are facing a very bad economic crisis. On top of that, we have efforts to revise history, distort history, and glorify the dictatorship of Marcos's father, Ferdinand Sr. We cannot allow these things to happen. That's why we are protesting. We are demanding that this regime address the urgent demands of the people and stop historical distortions, stop denying history, and take accountability for the crimes of the dictatorship.
Le pape François a prononcé hier, lundi, des excuses historiques aux peuples autochtones du Canada, demandant, je cite, « pardon pour le mal que les enfants ont subi pendant des dizaines d'années dans les pensionnats ».
I am sorry. I ask forgiveness in particular for the ways in which many members of the church and of religious communities cooperated, not least through their indifference, in projects of cultural destruction and forced assimilation promoted by the government of that time, which culminated in the system of residential schools.
Le président français Emmanuel Macron est en visite officielle au Cameroun ce mardi 26 juillet. Il sera demain au Bénin et jeudi, il sera en Guinée-Bissau. C'est la première visite d'un président français au Cameroun depuis François Hollande en 2015. Reportage de Polycarpe Samba pour RFI.
Point d'orgue de cette visite, le très attendu tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Paul Biya et Emmanuel Macron doivent se retrouver à 12h au palais présidentiel pour des échanges annoncés pour durer une heure. Il faudra scruter autant la forme que le fond, décrypter les annonces et les déclarations autour de cette visite, perçue par certains analystes comme participant de la relance d'une coopération France-Cameroun quelque peu échaudée ces dernières années. Vu de Yaoundé, il y a effectivement eu, au cours notamment du premier mandat du président Macron, quelques moments de vexation sur certains commentaires faits par le locataire de l'Élysée sur la conduite de certaines affaires internes à la politique camerounaise. Après principalement l'élection présidentielle de 2018 et la répression des manifestations du MRC de Maurice Kamto qui s'en était suivi, lequel Maurice Kamto avait été lui-même emprisonné pendant 9 mois. Une fois cette visite confirmée, plusieurs leaders de l'opposition et de la société civile ont tout fait de mettre en garde Emmanuel Macron quant à toute immixtion dans ce que d'aucuns perçoivent comme l'inéluctable transition à venir, le président Paul Biya, désormais très âgé, présentant des signes évidents de fatigue physique. Le RDPC au pouvoir se réjouit quant à lui de la venue d'Emmanuel Macron et prépare ses militants à réserver un accueil chaleureux à l'hôte de marque.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 19 degrés. Adélaïde, 15. Melbourne, 12. Hobart, 14. Canberra, 12. Sydney, 18 degrés. Brisbane, 25. Cairns, 27. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximal de 18 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi. Le nouveau Parlement fédéral s'est ouvert ce matin avec une cérémonie autochtone traditionnelle et un « Welcome to Country ». Le projet de loi sur le climat parmi une série de lois que le gouvernement fédéral souhaite aborder au cours de cette première semaine des travaux parlementaires. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench. Thank you.
13h14 et on va passer à un journal des sports exceptionnel sur le Tour de France homme qui a pris fin dimanche et le départ du Tour féminin avec Thomas Mercier et Christophe Mallet sur les routes de France et de Navarre.
Le Tour de France vient de se terminer ce dimanche sur les Champs-Élysées, le 109e Tour de France. On retrouve Christophe Mallet. Alors Christophe Mallet, vous pouvez nous faire un petit bilan et nous expliquer ce qui s'est passé lors de cette dernière étape du Tour de France.
Alors oui, une dernière étape, c'est toujours un peu difficile, un peu différent. Et c'est vrai que après deux ans d'absence à cause du Covid, on avait un petit peu oublié comment c'était. Les Champs-Élysées, c'est quand même le plus bel endroit du monde. Et c'est difficile de dire qu'on a peut-être oublié les Champs-Élysées, mais le Tour de France sur les Champs-Élysées, c'est quelque chose d'un peu spécial. Et hier, on a surtout eu la chance d'avoir deux arrivées sur les Champs-Élysées. L'arrivée du Tour de France femme avec la première étape et la dernière étape donc du Tour de France homme. Alors le Tour de France femme, on va en parler Thomas dans quelques instants. Mais le Tour de France homme, donc c'est terminé hier avec la victoire de Philippe Sen, une victoire tellement méritée, mais tellement dommage parce qu'on aurait vraiment voulu voir Caleb Ewan remporter sa première étape sur ce Tour de France. Il n'aura donc remporté aucune étape sur ce Tour de France. Il était venu comme l'arme fatale de Lotto Soudal. Il aura vraiment tiré à blanc sur ce Tour de France. Aucune victoire pour l'équipe. D'ailleurs, Lotto Soudal totalement. Donc c'est vraiment une déception. Pas une déception pour les Australiens parce qu'on s'en va avec deux victoires d'étape. Super victoire d'étape donc pour Michael Matthews et une autre victoire d'étape pour Simon Clark. Donc vraiment un beau tour pour les Australiens. Il y a eu aussi trois deuxièmes places. Donc en tant qu'Australien, on peut sortir content de ce Tour de France. Les Français peut-être un petit peu moins. Il n'y a eu qu'une seule victoire donc avec Christophe Laporte au sprint. Et puis après, bien sûr, la dominance des Jumbo-Visma qui partent avec six étapes au compteur. Donc c'est vraiment le Tour de France des Jumbo-Visma avec le maillot jaune Jonas Vingegaard. Donc il vient. Il faut quand même noter qu'il y a deux ans ou trois ans, personne, et celui qui vous dit le contraire est un menteur, personne ne connaissait Jonas Vingegaard et il a été sorti vraiment de nulle part et c'est vraiment une histoire incroyable puisqu'il y a trois ans il vendait encore du poisson sur le marché au Danemark et là trois ans après il est sur les Champs-Élysées, il lève les bras au ciel avec un super maillot jaune accroché sur les épaules.
Alors justement Christophe, comment on passe de vendeur de poisson à un coureur cycliste professionnel? C'est une histoire incroyable.
Bah oui, c'est très intéressant. En fait il a fourni ses données donc d'entraînement, donc les données qui sont calculées par rapport à son compteur et à son site internet, un site internet qui s'appelle Strava. Et donc ces données sont arrivées d'une façon ou d'une autre à l'équipe Jumbo-Visma et partant de là, je pense que tout simplement les gens de Jumbo-Visma ont tout simplement halluciné sur les chiffres que ce petit garçon, que ce jeune gars, parce que bon il a 25 ans, c'est vrai que là à l'époque il avait une vingtaine d'années, début d'une vingtaine d'années, et bien ils ont tout simplement halluciné sur les chiffres, ils lui ont demandé de venir et ils ont vu que en camp, etc., la puissance du garçon était tellement phénoménale qu'il y avait quelque chose à faire. Après, les circonstances ont fait que il s'est retrouvé leader de l'équipe Jumbo-Visma. C'est la plus grande équipe du monde de vélo avec le plus gros budget ou un des plus gros budgets du monde. Donc du coup, ça aide. Faut pas se voiler la face, mais au final, c'est un énorme vainqueur. C'est un vrai vainqueur du Tour de France. Il a dominé cette course presque de bout en bout. Donc ça vaut vraiment le coup d'être souligné et tirer le chapeau donc à Jonas Vingegaard qui a donc gagné ce Tour de France. Son premier Tour de France et un Tour de France qui était a fortiori plutôt réservé à Tadej Pogacar. On pensait que le Slovène avait eu deux Tours de France, il aurait pu vraiment gagner son troisième là. Il avait même le maillot jaune en première semaine. Et ben non, du coup, ça s'est pas passé comme ça. C'est Jonas Vingegaard qui est donc maillot jaune, vainqueur de ce Tour de France. Et quelle belle image hier c'était sur les Champs-Élysées. Et petite anecdote, on peut peut-être en parler, mais moi j'ai fait le Tour de France, la dernière étape du Tour de France sur une moto. Si ça vous intéresse, Thomas, on en parle. Hein.
Et justement, Christophe, j'en ai entendu parler. Vous avez fait la dernière étape à moto. Alors, racontez-nous comment se vit ce type d'expérience.
Bah, honnêtement, Thomas, c'était tout juste incroyable. En fait, j'ai jamais eu cette expérience de ma vie. J'ai donc eu la chance de pouvoir passer toute l'étape dans une moto, sur une moto, dans le cœur du peloton, vraiment tout derrière le peloton. Et c'est incroyable, chaos total que c'est derrière. Et je mâche pas mes mots parce que c'était vraiment une expérience que j'aurais, enfin, j'aurais honnêtement pensé jamais vivre ça. Et de voir le mouvement des voitures, le niveau de communication, le niveau de chaos total, mais organisé, malgré le fait que tout soit très très proche. Je pense qu'on a été au moins 10 fois proche de l'accident, mais il s'est rien passé, tout a fonctionné. L'énergie, la vitesse, rendez-vous compte, on a descendu les Champs-Élysées à plus de 90 km/h et le peloton était devant nous à 80, on les rattrapait à peine. C'était juste incroyable le coup de fusil qu'il y a eu quand les coureurs sont arrivés dans Paris. Enfin, c'était une vitesse incroyable, une énergie incroyable, une espèce de sentiment d'être pris dans un goulot d'étranglement et que fallait que ça sorte à l'autre bout. Mais vraiment quelque chose de tout simplement énorme dans le monde du vélo. Et je pense qu'on se rend pas assez compte du chaos total qu'il y a à l'arrière d'un peloton, quand on voit les motos de journalistes, de presse, de photographes, de la gendarmerie, de la police, les pompiers ont des motos, à la LCL a des motos, il y a des motos avec des roues de vélo dessus, et au milieu de tout ça, il y a toutes les voitures des équipes qui n'arrêtent pas de monter et descendre auprès de leurs coureurs. Enfin voilà, c'était une expérience extraordinaire, et vraiment une expérience pour moi vraiment encore une fois incroyable pour combler ce Tour de France masculin. Mais maintenant on part dans le Tour de France féminin et pourquoi pas, parlons-en en fait, ce Tour de France féminin avec une première étape qui a terminé donc sur les Champs-Élysées, un beau moyen de lancer ce Tour de France féminin qui maintenant donc part pour les 7 prochains jours, arriver dimanche prochain à la super planche des Belles-Filles. Jamais un Tour de France ne s'est fini en montagne, Tour de France masculin, jamais ça s'est fini sur une victoire, sur une étape en altitude. Et bien ce sera une première et ce sera pour le Tour de France féminin et ce sera dimanche prochain donc à la super planche des Belles-Filles.
Alors en effet Christophe, le Tour de France femme démarre sur les Champs-Élysées, deuxième étape entre Meaux et Provins-en-Seine-et-Marne, ça commence tout doucement sur du plat et elles enchaînent et elles vont terminer par les étapes de montagne. Et par ailleurs, et les Françaises et les Australiennes, ça donne quoi?
Bah, se place en tant que rival des Néerlandaises. Hein. Il y a 29 Néerlandaises sur 144 coureurs. C'est le plus gros contingent de coureurs en fait de championnes dans ce peloton. Elles sont vraiment omniprésentes dans le peloton et surtout elles sont à un niveau exceptionnel. Donc le plus dur, ça va être de battre les Néerlandaises. C'est pas vraiment la question des Françaises ou des Australiennes en fait, malheureusement. Après au niveau des Australiennes, on a de très très bonnes championnes. On a notamment Grace Brand qu'on connaît bien à SBS. Grace Brand, c'est une coureuse qui pourrait vraiment faire quelque chose. Sûrement pas gagner le Tour, honnêtement, sûrement pas gagner le Tour. Je serais très surpris si elle le fait, mais elle peut remporter une ou une ou deux étapes. Et puis il y a aussi bien entendu la légende Amanda Spratt qui a été diminuée à cause d'une infection qu'elle a eue dans une jambe. Elle a été opérée, enfin elle revient, elle se dit en forme. Par contre malheureusement elle a eu un accident hier sur les Champs-Élysées, mais rien n'est fini. Donc voilà, c'est là où ça se situe au niveau des Françaises. C'est peut-être un petit peu moins, mais elles sont il y a quand même 28 Françaises, donc elles pourraient sûrement briller sur ce Tour de France féminin. Mais franchement ça va être dur et très compliqué de voir quelqu'un d'autre qu'une Néerlandaise et notamment Annemiek van Vleuten remporter ce Tour de France féminin. Première édition du Tour de France moderne, il y avait déjà eu un Tour de France féminin dans les années 90 avec notamment Jeannie Longo hein, qui l'avait remporté 2 fois. C'était un Tour de France qui se disputait sur 3 semaines et qui n'avait vraiment pas été suivi, qui était en fin août. Enfin, les choses n'étaient pas forcément très bien faites. Là, c'est dans la foulée du Tour de France et surtout, faut le savoir, SBS est l'un des seuls réseaux de télévision à être resté avec un déploiement complet. Tous les autres ont vraiment totalement réduit la voilure pour ce Tour de France féminin. Et ben non, SBS, on est là, on est tous là sur le pont pour vous faire vivre une quatrième semaine de Tour de France. D'habitude c'est 3 semaines, et bien cette année c'est 4 semaines de Tour de France et ce sera bien entendu à l'antenne de SBS On Demand et tous les soirs sur votre télévision. Merci Thomas.
Merci beaucoup Christophe, on se retrouve très vite pour faire le point sur le Tour de France féminin sur SBS, le programme en français. À très vite.
Et on continue avec les dernières nouvelles du Tour de France dames, avec la deuxième étape hier remportée par la Néerlandaise Vos. On écoute le reportage de Tanguy Romain Clavelou et Clémentine Pavlovski pour RFI qui nous présente aussi d'autres nouvelles du sport.
L'édition féminine a donc pris le relais pour la deuxième étape ce lundi. La victoire s'est jouée au sprint.
Et c'est Marion Vos qui s'impose à Provins après sa deuxième place la veille. La légende néerlandaise fait coup double. Elle s'empare également du maillot jaune. Une belle satisfaction pour la coureuse de 35 ans au micro de Christophe Diremzian.
Bien sûr, on courait pour une victoire d'étape. C'était notre premier objectif en tant qu'équipe. Hier, on était passé tout près. On était dans une bonne dynamique et on a voulu réessayer aujourd'hui. Et ça a très bien marché. Donc, je suis très heureuse. On ne se focalisait pas vraiment encore sur le maillot jaune. Mais évidemment, c'est très très bien et on va en profiter demain. On doit aussi être réaliste. On n'en est qu'à 2 jours de course et il y a la montagne ce week-end. Porter ce maillot, c'est bien, mais les choses vont sûrement changer tout au long de la semaine.
Une deuxième étape marquée par des chutes en cascade, dont une très violente. À 25 km de l'arrivée, Marta Cavalli s'est faite violemment percuter à pleine vitesse par la championne d'Australie Nicole Frayne. L'Italienne, grande favorite du Tour, a dû abandonner à l'arrivée.
En football, Tanguy, la saison approche à grands pas pour les clubs français. Le Paris Saint-Germain conclut sa préparation en beauté.
Avec un large succès pour terminer sa tournée au Japon, victoire 6-2 du PSG face au Gamba Osaka, le troisième en autant de rencontres. Neymar, auteur d'un doublé. Lionel Messi et Kylian Mbappé y sont également allés de leur petit but. Malgré ce succès, l'entraîneur parisien Christophe Galtier demande plus de rigueur défensive.
Comme on l'a vu ce soir, nous avons concédé 2 buts. Ce sont 2 buts de trop. Et évidemment que c'est un axe de travail très très important. Il faut que l'on soit plus structuré, ne pas être désordonné. Et on ne sortait pas dans les bons timings, on avait du mal à se replacer. Je répète et j'insiste que c'est un axe de travail important pour ne donner aucune chance à la fois à l'adversaire du soir et montrer un visage beaucoup plus dur pour les futurs matchs.
Le Paris Saint-Germain qui dispute dimanche le trophée des champions face au FC Nantes à Tel Aviv.
Et c'est pour finir, les championnats du monde d'athlétisme se sont achevés cette nuit à Eugene aux États-Unis, les Américains qui ont outrageusement dominé leurs mondiaux.
33 médailles et 13 titres, loin devant tout le reste. Derrière, au tableau des médailles, l'Éthiopie, la Jamaïque et le Kenya comptent seulement 10 distinctions chacun. L'équipe de France revient-elle avec un bilan très maigre, une seule médaille, celle en or de Kevin Mayer au décathlon, décrochée lors du dernier jour de la compétition.
Frédéric Suto, l'envoyé spécial de RFI à Oregon, pour les mondiaux d'athlétisme, fait le point maintenant sur les performances africaines de ces mondiaux.
Alors on ne va pas pouvoir tous les citer. Les 17m55 de Fabrice Zango, le Burkinabé, hier au triple saut, médaille d'argent. La razzia des Éthiopiens qui ont gagné les deux marathons, et côté féminin le 5000 et le 10000. Les Kenyans, tout comme les Éthiopiens, repartent de l'Oregon avec 10 médailles et 2 titres. Emmanuel Corrier sur 800 mètres et Fef Kipyegong sur le 1500. Elle a confirmé qu'elle était la patronne. Joshua Cheptegei, l'Ougandais, qui gagne le 10000. Le Marocain Soufiane El Bakali de 3000 mètres steep, et on n'oublie pas sur 200 mètres la quatrième place d'Aminatou Seni, la Nigérienne, et celle du Libérien Joseph Fanboulé, le Libérien, derrière 3 Américains.
Et bien voilà pour ce journal des sports. Et dans 36 secondes, on passe à la chronique de la semaine politique avec Patricia Meunier sur les affaires Barry Laro et Sidoti qui secouent le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud.
Dominique Perrottet, le chef de la Nouvelle-Galles du Sud, est dans la tourmente. 2 affaires de corruption à domicile assombrissent son premier voyage à l'étranger en Asie. La première, celle de John Sidoti, le parlementaire représentant Drummond, a été reconnu coupable par l'ICAC, le gendarme anticorruption de l'État, mercredi dernier. L'homme aurait utilisé sa fonction pour faire bénéficier sa famille davantage lors du développement du Five Dock Town Center. Aujourd'hui, l'homme refuse de démissionner malgré les pressions de Dominique Perrottet. Il affirme qu'il est innocent et qu'il va se battre pour la vérité. La seconde affaire, la saga de John Barilaro, l'ancien adjoint du chef de la Nouvelle-Galles du Sud, est plus sérieuse, car les évidences semblent s'accumuler dans l'investigation sur la nomination de John Barilaro au poste de délégué commercial aux États-Unis. Rappelons les faits. L'ancien adjoint du Premier est sous le coup d'une enquête depuis que Jenny West, une fonctionnaire, a révélé qu'elle s'était déjà vue offrir le poste de délégué commercial à New York en août 2020. Le poste lui a ensuite été retiré avant d'être offert à John Barilaro, qui a démissionné ensuite vu la publicité négative. Dans cette affaire, un témoignage explosif a secoué le gouvernement. Perrottet, mercredi 21 juillet, une conversation datant d'il y a 3 ans a refait surface au cours de l'enquête parlementaire. L'ancien responsable du personnel a confirmé au Parlement que John Barilaro voulait le très lucratif job de délégué commercial. Il lui aurait dit en avril 2019 que le gouvernement allait rouvrir des positions de délégués commerciaux à l'étranger et qu'il était en route pour New York, car il allait y créer un office pour lui lorsqu'il prendrait sa retraite en politique. Selon Mark Connell toujours, la conversation aurait eu lieu juste après une réunion avec Dominique Perrottet, encore trésorier à l'époque, et Stuart Hearst, le ministre des investissements. La thèse de corruption a encore été appuyée par un autre témoignage jeudi dernier. Un autre ex-employé de Barilaro a expliqué que son ancien patron avait toujours voulu le job de New York et qu'il avait insisté pour convertir très vite le rôle en position politique en septembre dernier. Dominique Perrottet a réfuté les allégations. Les réclamations faites par les deux anciens collaborateurs sont fausses, selon lui. Dans un communiqué, Barilaro a qualifié les témoignages de fiction et continue de demander à être appelé comme témoin. L'opposition a réagi très vite à ces révélations. Elle considère la situation comme très grave. On écoute son leader, Chris Minns.
Look at the statement from the chief political advisor to Mr. Barilaro. The position of the New York Trade Commissioner was created by John Barilaro for him to fill. Now, this important revelation probably confirms what many suspected, but many others hoped wasn't true. And that is, if true, that this position was created for a friend, that the selection process was rigged, and that there's been a month-long cover-up to prevent the people of New South Wales getting access to the real information. The truth of the matter is that Mr. Connell is Mr. Barilaro's chief political advisor, and you'd have to ask, why didn't anyone inside the New South Wales government ask Mr. Connell's view about this New York Trade Commissioner role before today, 1 month into this scandal?
L'opposition demande des comptes, elle ne va pas laisser passer les choses, elle exige tous les documents en lien avec les postulations, rien n'a encore été livré. Le trésorier de l'opposition semble convaincu que Dominique Perrottet est au courant. On écoute le travailliste Daniel Mouki.
Now to be clear here, there is no way that these positions in New York could have been created without the consent of then Treasurer Perrottet or Premier Perrottet. The only reason why we have an office in New York is because Treasurer Perrottet must have signed off on it. Treasurer Perrottet and now Premier Perrottet have to explain whether or not he knew that John Barilaro wanted to fill this job when he signed off on spending public money creating this office in New York.
Le chef de la Nouvelle-Galles du Sud répondra aux questions sur la nomination de son ancien collègue le mois prochain, car il attend des réponses de sa propre enquête. On écoute Dominique Perrottet.
They are in the process of being released and will be released shortly. They've been doing it in tranches. There's obviously a lot of volume, and my expectations, which I've made very clear, is that all documents are provided as quickly as possible.
Les infos sont attendues dans les prochaines semaines. Le Premier a assuré qu'il prendrait les mesures nécessaires en cas de besoin.
I will receive the information that comes from that review. Rather than providing public commentary in relation to information I do not have or am not aware of.
En attendant, la question reste dans l'air. Dominique Perrottet était-il au courant de ces manigances? Une chose est sûre, cette investigation assombrit l'aura du gouvernement en poste.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eric Gravel, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Bonjour.
Et vous êtes le réalisateur du film Full Time, je dis le titre en anglais. Et comment d'abord est venue l'idée de tourner ce film qui aborde plusieurs questions? C'est un film très convaincant, c'est l'histoire d'une mère célibataire poussée à ses limites. Mais je vous laisse nous raconter brièvement l'histoire sans trop dévoiler le scénario.
Oui, ben en fait, c'est l'histoire de Julie, qui est une mère qui élève seule ses deux enfants à la campagne
et qui fait des allers-retours de sa campagne vers Paris pour aller travailler dans un palace parisien comme première femme de chambre. Mais c'est la prémisse. Ensuite de ça, il se passe des choses voilà, qui nous permettent de découvrir que le personnage est peut-être pas tout à fait ce qu'on imaginait d'elle. Et en fait, elle va se retrouver pendant une semaine de grève généralisée en France à chercher en même temps à essayer de décrocher un nouvel emploi. Donc voilà, ça c'est un peu la prémisse. Après, comme vous l'avez dit, il y a peut-être j'aborde plusieurs sujets, mais honnêtement, je pense que j'ai pas commencé à écrire un scénario en me disant je vais parler de tous ces sujets là. Ça parle quand même. Bon, vu qu'on parle d'une mère célibataire qui court du matin au soir, c'est vrai que ça implique plusieurs sujets, ça coche plusieurs cases. Mais au départ, mon intention était surtout de parler des gens qui habitent loin de Paris, de plus en plus loin de Paris, et comme c'est le cas dans beaucoup de grandes villes là, à travers le monde, et qui, à cause de l'étalement urbain, et qui sont obligés de venir de faire des heures de route, des heures de transport pour aller travailler, des fois pour des boulots de plus en plus de plus en plus petits finalement. Et moi, c'est une réalité que je connais parce que bon, je suis Canadien d'origine, je suis Québécois, mais j'habite la France depuis 22 ans et j'ai habité Paris. Et puis quand j'ai décidé d'aller vivre à la campagne, j'avais quand même besoin de faire des allers-retours à Paris. Et je pensais que je faisais un choix marginal, mais je me suis rendu compte qu'énormément de gens faisaient ce choix de vie et avaient besoin de faire des allers-retours au quotidien.
Et peut-on dire que votre film est un thriller avec une course contre la montre qui ne finit pas? On a aussi l'impression d'être collé à Julie tout au long du film et chaque minute compte pour elle. Et c'est cette impression que vous avez voulu créer?
Ben, je me suis vite rendu compte que ces journées à rallonge qui n'en finissent plus ou au moindre grain de sable, tout peut basculer, puis parce que ça a pu m'arriver, puis parce que ça a pu tous nous arriver un de ces jours, ces moments où on se dit mais mon Dieu, ma journée va tellement mal et comment je vais arriver, ou ma semaine a été mal et comment je vais passer à travers. Et c'est quelque chose de très, je dirais, commun qu'on a tous vécu. Mais la sensation que je ressentais quand j'ai commencé à écrire cette histoire, c'était que ça se rapprochait d'une certaine façon de ces sensations qu'on a lorsqu'on va au cinéma voir des films des trailers ou des films d'action, et puis on est pris par ce personnage qui vit une mission, qui a des missions, qui vit des trucs incroyables, alors que finalement ces sensations on les ressent très bien au quotidien, et j'ai voulu un peu faire cette association entre ces espèces de sensations qu'on a en regardant un trailer et ces sensations qu'on a lorsqu'on a des journées compliquées et que le stress s'accumule et qu'on essaie d'arriver au bout. Et je me suis dit, je pense que c'est ces mêmes impressions. Et comme souvent les films sociaux, on attend d'eux peut-être un style un peu plus naturaliste. C'était pas comme ça que je le voyais, en fait. Je crois que j'aime beaucoup ce type de film, évidemment. Et je suis plutôt quelqu'un qui aime le cinéma social, mais j'avais envie d'utiliser ce que le langage cinématographique me permettait de me donner tous les outils pour raconter cette histoire, et finalement c'est comme ça que c'est devenu, que ça a glissé vers un film à suspense ou à thriller. Ouais.
Et en incluant cette grève nationale dans le scénario, aviez-vous voulu présenter un commentaire sur l'agitation quotidienne? Quand il y a une grève, tout est paralysé. Et quel était le message que vous vouliez faire passer à travers ce film sur, disons, cette France peu connue, incarnée par Julie, qui vit très loin de son travail, qui passe des heures à voyager? Et vous l'aviez mentionné au début, elle ne cesse jamais de courir.
Ben, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose que j'entendais pas beaucoup parler à la télé et ni au cinéma. C'est-à-dire, il y a eu des films, mais c'est déjà très lointain. Il y avait Elle court la banlieue dans les années 70, mais qui présentait, voilà, d'une certaine façon, presque mignonne, le quotidien de ces banlieusards qui viennent travailler à Paris et qui repartent dans leur banlieue tranquille ensuite. Mais c'est pas du tout, j'ai l'impression, la réalité du terrain, alors qu'aujourd'hui, ben, les transports sont de plus en plus compliqués, qu'il y a des lignes de transport à rénover et que les gens ont des journées qui deviennent très, très compliquées. Donc, j'ai eu envie de témoigner de ça. Et puis, le fait de le mettre dans les grèves, ben, je savais que je touchais à un sujet un peu délicat parce que, effectivement, les grèves en France, c'est quelque chose qui arrive souvent. Est-ce que c'est le fait que je suis d'origine québécoise qui m'a donné le culot d'avoir envie de regarder par la lorgnette des grèves? En tout cas, je savais que c'était un sujet, voilà, que je marchais sur des œufs. Mais surtout, c'est que ce que je voulais pas faire, c'est que la grève au départ, qui peut paraître l'antagoniste de Julie et la chose qui rend sa vie difficile, devienne quelque chose de plus complexe où en fait, j'avais envie de raconter un combat individuel et un combat collectif, et qu'à travers le combat de cette femme, on comprenne que la résultante de ce combat individuel est le combat collectif, parce qu'en fait, à force d'avoir à se battre, on finit par s'associer pour se battre ensemble. Et ce qui m'intéressait, et ce que je trouvais, voilà, j'aime bien ces jeux de contradictions et de choisir un personnage qui a une voix qui porte peu dans la société, qui peut pas manifester et qui a de la difficulté à être entendu. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais que ça donnait, ça montrait sous toutes ses facettes le combat à la fois, individuel et collectif.
Parlons des interprètes. Julie est jouée par Laure Calmy. Est-ce que vous l'aviez en tête pour jouer ce rôle principal quand vous étiez en train d'écrire le scénario?
Pas à l'écriture, non. J'essaie de pas trop avoir d'acteurs en tête lorsque j'écris. Comme ça me laisse toute la liberté. Reste que après, quand sur papier, c'était un personnage qui était assez dur, on le voit bien dans le film, elle est exigeante avec les autres par nécessité, parce qu'elle a besoin des autres, donc elle est toujours en demande et elle vit des choses assez difficiles. Et j'avais envie de trouver un personnage qui, comme on sait pas grand chose d'elle en plus, c'est ça, j'avais envie d'un personnage assez équilibré où on sent que, à une autre époque, elle allait peut-être bien. Et Laure Calmy a quelque chose de rare, qui est cette lumière, qui est ce côté pétillant, qui est naturel chez elle. Et je trouvais ça intéressant. Moi, je l'avais vu déjà dans des rôles drôles, mais surtout dans des rôles dramatiques au cinéma. Et je savais qu'elle avait ces deux aspects de sa facette qui étaient de jouer à la fois le drame et la comédie. Et je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'elle a, c'est ça, cette qualité rare de pouvoir donner dans le drame quelque chose de léger. Et ou en tout cas de sentir que cette femme est à un moment où elle va pas bien, mais que normalement elle devrait bien aller. C'était assez évident à la fois pour les producteurs et la directrice de casting que le choix de Laure, moi j'avais pensé à Laure et tout le monde trouvait que c'était une idée fantastique, donc on lui a proposé et puis elle a embarqué tout de suite.
Et pour les autres personnages, les autres personnages principaux, Geneviève Niche et Anne Suarez, comment est-ce que vous avez fait pour le casting?
Ça s'est fait en casting, en fait. C'est-à-dire avec le directeur de casting, on a vu des gens et puis c'est par leur talent c'est par le talent de ces actrices qu'on les a trouvées. C'est-à-dire que moi, je les connaissais pas personnellement. C'est drôle parce qu'il y en a plusieurs. Par exemple, Anne Suarez connaissait Laure. C'est des gens qui se connaissent bien. Donc, c'est bien, dans ce temps-là, il y a eu quelques rôles comme ça où c'est le hasard qui a fait que elle se connaissait et avait déjà une bonne complicité, donc ça a aidé. Mais non, c'était vraiment c'est l'idéal aussi dans ce temps-là quand les rôles sont donnés pour les bonnes raisons, disons. Et effectivement, c'est parce que ces dames, arrivaient à donner l'essence de leur personnage d'une belle façon. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on les a choisis.
Et la musique électronique en toile de fond, c'est un choix personnel?
Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'écriture, quand j'écris, j'écoute pas de musique, j'écris dans le silence, mais évidemment, il y a une musique intérieure qui s'installe. Et je sais que j'avais envie d'une sensation à très années 70 dans mon film, un peu Nouvelle Hollywood, ou le côté quand le cinéma social s'est réinvité dans le cinéma américain au début des années 70. Et puis, à côté de ça, ben justement, comme je pensais aux années 70, j'avais cette idée de la musique électronique un peu répétitive des années 70 qui s'installait en moi comme une espèce de sensation c'est peut-être la sensation que je ressentais quand je prenais le train puis que je courais justement ces journées de course où, où on commence à stresser. Et j'avais envie de cette musique intérieure du personnage et je sentais que c'était le bon choix. Fait que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé qu'on me propose des artistes, en fait. Je voulais pas nécessairement travailler avec des spécialistes de bande-son pour le cinéma. J'avais plutôt envie d'un artiste qui a sa propre tonalité, sa propre touch, comme on dit, et comme ça, pas avoir besoin de l'amener dans mon univers, mais plutôt aller chercher son univers. Et Irène Drezel avait son univers, c'est une artiste de musique électro, de concert, plutôt. Et c'était sa première bande-son, et en fait, c'était... J'ai adoré cette collaboration parce que justement, elle pouvait proposer à ce moment-là ce qu'elle sait faire, ce qu'elle est. Et à travers ça, on a trouvé la tonalité du film et ça me permettait d'avoir peut-être une musique avec une proposition forte musicale. Je savais que je voulais quelque chose de cet ordre-là qui était, parce qu'à un moment donné, j'ai entendu des musiques dans des propositions, des musiques de compositeurs, plutôt de musique de film. Puis même si c'était déjà quand même, on me proposait des choses électroniques, ça avait pas la même tonalité que quand c'est vraiment la musique d'un artiste. C'est ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire. Ça sonnait pas de la même façon et surtout, ça donnait pas la même sensation. Et voilà.
Et votre film Full Time a reçu beaucoup de récompenses, notamment à la Mostra de Venise, pour vous-même et pour... L'Encalmie, vous étiez surpris?
Bien sûr, c'est-à-dire qu'on déjà d'être sélectionné à Venise, c'était un grand plaisir et on en demande pas plus. Les prix, c'est le bonus qui vient avec. Ce qui est bien avec les prix, c'est que bon, c'est une bonne tape dans le dos, mais ça permet de faire voir peut-être un peu plus le film. Et ça, j'avoue que c'est très agréable parce que on fait des films pour qu'ils soient vus. Donc, si les prix... En même temps, je trouve que ça n'a jamais de sens de mettre les films en compétition les uns avec les autres, mais en même temps, ben si ça permet à certains films de donner envie d'aller voir les films, tant mieux. Et puis, c'est vrai que ça a été une très, très belle surprise.
Éric Gravel, que diriez-vous au public australien pour l'encourager à aller voir votre film qui d'ailleurs a déjà été projeté lors de l'Alliance française French Film Festival au début de cette année-ci?
Ben, je dirais peut-être, quand on lit le synopsis, on a l'impression qu'on va aller voir un film social, peut-être. Des fois, c'est un peu dur. Hein. Quand on parle de film social, c'est des histoires qui peuvent être un peu plombantes, qui peuvent être un peu dures, et on se dit, ah, mais je vais au cinéma pour passer un bon moment. Ce que je leur dirais, c'est que... faut pas se fier aux apparences, que lorsque les gens vont aller voir le film, ils risquent d'être surpris par le ton, par l'énergie du film. Et surtout, moi, en tout cas, je vois le cinéma comme... la différence entre peut-être le cinéma et le petit écran, c'est qu'au cinéma, les lumières s'éteignent et on vit une expérience. Et j'ai conçu le film comme une expérience de cinéma, comme un moment où les lumières s'éteignent et pendant une heure et demie, on est plongé dans un univers différent. Et j'ai envie de dire aux spectateurs australiens de faire le pari d'aller vivre cette expérience.
Éric Gravel, merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie. Bonne continuation pour vos prochains projets.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Ouais. Tu connais le jardin d'acclimatation?
Ouais.
On pourra y aller un jour?
Écoute, on verra.
La circulation vers Paris est interrompue.
Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution.
Vous allez manifester aujourd'hui?
Bah, j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris.
C'est dur ça.
On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est Monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée.
J'ai un entretien.
Pour un boulot?
Genre un bon boulot? Un super bon boulot.
Tu joues avec le feu, Julie.
Et avec les retards en plus, ça arrange rien.
Vous pourriez trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile.
je vais te laisser mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça, je suis pas sûre.
En raison d'un mouvement social.
Il y a un train qui va partir là.
Quelle voie ?
Voie 14.
Jeanne Delacroix.
Julie Roy.
Enchantée.
Merci de vous être déplacée malgré les grèves. Ça vous inquiète pas de reprendre le travail après une aussi longue pause ?
Ah non ?
Enfin, l'émission un rappel des grands titres de ce 26 juillet. Le nouveau Parlement fédéral s'est ouvert ce matin avec une cérémonie autochtone traditionnelle et un Welcome to Country. Le projet de loi sur le climat parmi une série de lois que le gouvernement fédéral souhaite aborder au cours de cette première semaine des travaux parlementaires. Le président français Emmanuel Macron est en visite officielle ce mardi au Cameroun. Demain, il sera au Bénin et jeudi, il sera en Guinée-Bissau. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous jeudi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Je vous laisse avec Saina Mayot, la Guyanaise, qui vous interprète toujours Dibout.
La vie qu'a voyé de gauche de droite, mais nous pas j'ai caillot tapis, nous ni force, nous ni courage, c'est pour ça ni dit fait capri. Nous c'est petit à ancêtres, nous qu'a croyant karma, nous t'es que j'atterre, si nous pas t'es ni mental là. Injustice, nous savons c'est ça qu'a c'est vie. Abandonner dit, nous pas savons qu'a ça veut dire. Nous toujours du bout qu'on soldat, nous pas qu'a faibli. Même les nous qu'a souffert, nous pas qu'a faibli. Oh oh. Monsieur Sadik, ça est dans ma note. Toujours du bout, aïe Dieu ça.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.